Le journal de Florence Paracuellos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Dans les pas du général de Gaulle cette saison. Et aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron qui endosse le costume pour deux cérémonies très gaulliennes en ce 11 novembre, qui verra Hubert Germain, dernier compagnon de la Libération, entrer au Mont-Valérien pour l'histoire. Et justement, quand l'histoire s'invite dans la campagne présidentielle, ce sera le thème du grand entretien tout à l'heure.
Oui, avec deux historiens, Pascal Horry, Nicolas Offenstadt, à notre micro avec Léa dans une vingtaine de minutes. Vous l'avez dit, Florence, on évoquera notamment la résurgence de la Seconde Guerre mondiale dans le débat politique de cette pré-campagne présidentielle. Vous êtes invité au débat 01 45 24 7000.
Et pas facile de faire campagne quand son candidat n'est pas encore candidat. Quand est-ce qu'on y va, demandent les militants d'En Marche, on va les entendre. À la une aussi, la relance du nucléaire qui fait mal à Fessenheim, qui a dû fermer sa centrale. Aminata Diallo, la joueuse du PSG, a-t-elle fait tabasser sa coéquipière Kera Amraoui? Les enquêteurs sont en train de le déterminer. Et puis du jazz à Nevers, il s'y joue en ce moment un festival éblouissant.
France Inter.
À 5 mois d'une présidentielle, tout est politique, y compris ce 11 novembre 2021, l'armistice de la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui sera l'occasion d'une double cérémonie à la mémoire d'un combattant de la Deuxième Guerre, Hubert Germain, dernier compagnon de la Libération, mort le mois dernier, inhumé cet après-midi au Mont-Valérien, comme l'avait souhaité De Gaulle, après un premier hommage ce matin à l'Arc de Triomphe. Or, ces deux cérémonies seront quasiment identiques à celles du 11 novembre 1945. Emmanuel Macron, dans le rôle du général Maxence Lambrecq.
L'Élysée revendique ce parallèle. Le 11 novembre 1945, De Gaulle choisit d'honorer, d'unir toutes les résistances. 2 femmes et 13 hommes morts pour la France, inhumés au Mont-Valérien. Les 15 cercueils reposent d'abord aux Invalides pour une veillée funèbre. Ils remontent le 11 au matin, les Champs-Élysées entourés par la grande escorte de la garde républicaine, d'habitude réservée au chef de l'État. Tout à l'heure, le dernier compagnon de la Libération recevra cet honneur sur un char de l'armée de terre. Puis son cercueil sera déposé devant la tombe du soldat inconnu. Sous l'Arc de Triomphe, Emmanuel Macron va, comme le général, prononcer un court discours pour refermer ce cycle, en ouvrir un nouveau, dire comment il compte assurer la pérennité de l'ordre de la Libération.
Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang.
Le chant des partisans résonnera ensuite, tout comme le nom des 7 soldats français morts pour la France depuis le 11 novembre dernier. Au Mont-Valérien, l'après-midi, comme le souhaitait Hubert Germain, le président déposera sur son cercueil une croix de Lorraine, taillée dans la charpente de Notre-Dame avant l'incendie. Une cérémonie alors solennelle, silencieuse, comme celle du 11 novembre 1945. Loin, bien loin du défilé de ses adversaires à Colombey avant-hier, Emmanuel Macron va apparaître comme un héritier du général en respectant à la lettre sa volonté.
Pour autant, le président n'est toujours pas candidat à sa réélection malgré un discours de quasi-campagne. Avant-hier soir à 20h, il ne s'est pas encore déclaré, ce qui ne facilite pas la tâche aux militants d'En Marche qui voudraient bien d'entrer en campagne, mais cet entre-deux est compliqué à gérer. La preuve avec ce reportage de Simon Le Baron qui a suivi une opération de porte-à-porte hier soir à Orléans avec un proche du président.
Oui, bonjour madame.
Même quand on est à la tête du mouvement présidentiel.
Stanislas Guérini, je suis le patron de la République En Marche.
Un coup ça passe.
Allez-y, rentrez.
Bah, c'est super sympa.
Un coup ça casse.
Je suis pas intéressée, surtout par le côté En Marche. Non merci.
D'accord, ok, bah écoutez, c'est...
Bonne soirée.
Stanislas Guérini assume. Oui, il est en campagne.
Bon, et puis ben, n'oubliez pas de voter l'année prochaine, hein, c'est important. Toujours en vote tout le temps.
Ce qui n'empêche pas Arthur, étudiant en droit fiscal et qui a regardé l'allocution d'Emmanuel Macron, d'être un peu gêné par ce mélange des genres président. Candidat.
J'ai trouvé que le discours était un peu hors sujet dans le sens où il a commencé à glisser des sujets de campagne, etc.
Même parmi les militants que le patron des marcheurs est venu motiver, certains s'interrogent.
Parce qu'en fait, il n'y a pas de candidat pour l'instant. Enfin, il y en a un, mais bon, officiellement, il n'y en a pas. À quel moment ça démarre? C'est quand le feu vert?
Aller dire à quelqu'un qu'on est en campagne, on peut avoir ça en retour, mais attendez, il ne s'est pas déclaré, quoi.
Et vous diriez quoi alors si on vous dit ça?
Ah ben ça, c'est une bonne question.
Défendre l'action menée depuis 4 ans et demi, voilà la seule réponse selon Stanislas Guérini.
Parce qu'on a un bilan, c'est une grande différence avec 2017, on parle plus d'une page blanche maintenant. Moi je me sens très à l'aise dans mes baskets à faire campagne.
Le délégué général d'En Marche, qui ne fait donc pas partie de ces cadres de la majorité, impatient de voir Emmanuel Macron sortir de l'ambiguïté.
Cela dit, Emmanuel Macron cache-t-il vraiment sa volonté de continuer à la tête du pays quand il parle de la réforme des retraites à mener ou du nucléaire qu'il veut relancer? Cette partie-là du discours de mardi soir à la télévision, en tout cas, a fait l'effet d'une gifle dans une commune de France. C'est Fessenheim, où le même Emmanuel Macron a fait fermer la centrale nucléaire l'an dernier. Reportage signé Patrick Janton.
Dans le café-restaurant au centre de la commune, un groupe d'une dizaine d'agents EDF est attablé pour la pause déjeuner. À la vue du micro, les invectives fusent. C'est à cause de la presse qui donne trop la parole aux écologistes que la centrale a fermé. Une douleur quotidienne, devoir découper les éléments d'un outil qui marchait bien. On n'insistera pas. Direction l'hôtel de ville voisin, Claude Brender, le maire, a suivi l'allocution présidentielle.
Une fois, on est vraiment les dindons de la farce, on est les sacrifiés de cette politique parisienne. Là, d'autant plus mauvaise que ça met en lumière toute l'idiotie de la fermeture de ces réacteurs qui auraient encore pu fonctionner très largement au moins 10 ans de plus, voire 20 ans.
Sur le parking de la grande surface de Fessenheim, on regrette là aussi la fermeture de la centrale.
Oui, je pense que c'est une grosse erreur. Je pense qu'il y a peut-être d'autres pays derrière qui font pression, comme nos voisins, les écologistes bien sûr. Voilà, c'est dommage, c'est bien dommage.
L'élu Les Républicains Michel Habig, qui a présidé durant de nombreuses années la commission locale d'information et de surveillance de la centrale nucléaire.
Tout ça c'est un énorme gaspillage. Ce qui me fait mal, c'est le gaspillage d'argent public pour des idées, des idéologies, pour faire plaisir d'une manière électorale. C'est pas normal.
Fessenheim pleure sa centrale nucléaire et attend toujours les compensations et les emplois qui devaient arriver. Rien n'a bougé depuis 18 mois et l'arrêt définitif du second réacteur.
Patrick Janton, France Bleu Alsace. Un meurtrier et un détrousseur de cadavres inspiré par l'antisémitisme. Voilà ce qu'a retenu la cour d'assises de Paris dans son verdict hier soir à l'issue du procès du meurtre de Mireille Knoll. Le meurtrier, c'est Yassine Mioub, condamné à la perpétuité. Le voleur, Alex Karim Bakus, fera 15 ans de prison.
Il est 8h08. S'agit-il, Florence, d'un guet-apens organisé par jalousie?
La milieu de terrain du PSG, Aminata Diallo, a passé la nuit en garde à vue, arrêtée après l'agression de sa coéquipière Kéram Raoui jeudi dernier. La jeune femme a été frappée aux jambes à coups de barre de fer en rentrant d'un dîner, raccompagnée par sa coéquipière en voiture qui, elle, s'en est sortie indemne. Et l'étau semble se resserrer autour d'elle, Winnie Claret.
Oui, puisqu'après Aminata Diallo, c'est une deuxième personne qui a été placée en garde à vue hier. Il s'agit d'un proche de la joueuse parisienne, incarcérée à Lyon et qui a été extrait de prison pour être entendu. Il est soupçonné d'avoir orchestré cette agression jeudi soir dernier. Kaira Amraoui, frappée aux jambes par des personnes cagoulées, armées d'une barre de fer. L'endroit du corps qui est ciblé interroge. La footballeuse Amraoui a reçu plusieurs points de suture et n'a pas pu disputer le match de Ligue des Champions face au Real Madrid. Mardi soir, Kaira Amraoui, qui s'est imposée dans l'effectif parisien depuis son retour au club cet été et qui occupe le même poste qu'Aminata Diallo, à Paris comme en équipe de France. Une rivalité sportive scrutée par les enquêteurs qui suivent la piste d'une agression commanditée.
Ça ressemble clairement au début d'une cinquième vague, constate Olivier Véran au lendemain des annonces d'Emmanuel Macron sur la dose de rappel. Mais pour le ministre de la Santé, on peut passer cette vague comme la précédente sans voir les malades affluer à l'hôpital. Grâce au vaccin, 11 000 nouvelles contaminations ont été enregistrées ces dernières 24 heures, très loin des 50 000 nouveaux cas en Allemagne hier. Et si le nombre de cas augmente sur le continent, ça va mieux en Guadeloupe, qui desserre l'étau du confinement. Le couvre-feu prendra fin dimanche avec la fin de l'état d'urgence sanitaire sur l'île. Une crise qui a aggravé la pénurie d'infirmiers en France. On le sait, tous les hôpitaux en manquent et cherchent à recruter au salon infirmier de la Porte de Versailles à Paris. C'était donc opération séduction ces trois derniers jours. Reportage signé Véronique Julia.
Dans les couloirs du salon, Maxime, étudiant infirmier de troisième année, est agréablement surpris. Il se sent convoité.
C'est plutôt sympa. On peut pas faire 3 mètres sans qu'on ait un recruteur qui vienne nous voir en nous demandant si on est intéressé par un emploi, quoi.
Côté recruteur, on reconnaît qu'on sort les rames. Les hôpitaux de région font valoir la douceur de vivre en province. Pour séduire, le CHU de Bordeaux propose des parcours de formation, des aides au logement. Il embauche aussi directement en CDI. Valérie Astruc est à la direction des ressources humaines.
La formule CDI a quand même un message plus fort vis-à-vis de la personne qui est recrutée, on a envie qu'elle reste.
L'hôpital de Niort affiche, lui, 20 postes vacants. Il a décidé de financer des étudiants pour s'assurer leur service dès la sortie de l'école. Amanda Dubré, la directrice des soins.
On leur offre une allocation d'études mensuelle. En échange, ils restent 2 ans chez nous. C'est quelque chose qui peut aider, ça.
À l'hôpital Foch de Suresnes, plus de 10% des postes d'infirmiers sont vacants. La profession fuit la capitale. Pour la retenir, la directrice des soins, Dominique Reinhardt, mise sur les conditions de travail.
Du massage, de l'hypnose,
chose.
Elle offre des primes d'embauche aussi.
Des primes de fidélisation et d'attractivité.
Devant ces offres, les étudiants s'informent évidemment, mais le charme n'opère pas forcément.
Il va falloir sortir les bifetons.
Caroline attend des salaires plus élevés. À ses côtés, Sophie sait déjà que l'hôpital public n'est pas pour elle.
Il y a un épuisement professionnel, beaucoup de tensions dans les équipes. Ça me fait pas rêver, quoi.
Pour Sophie, l'avenir sera en libéral.
Véronique Julia a demandé les papiers d'identité d'un nourrisson de 3 mois, grand prématuré, pour l'embarquer sur un vol de rapatriement médical. C'est ce que n'a pas hésité à faire Air France, qui a refusé l'enfant et sa famille au départ de Nice parce qu'il n'avait pas de carte d'identité. Le bébé devait être opéré en urgence à Paris en fin de semaine dernière. Il a dû être rapatrié en ambulance, 10 heures de route. Et voilà un salon de plus en plus prisé parce qu'il incarne le monde d'après dont tout le monde rêve depuis la pandémie et pour lutter contre le réchauffement climatique. Le salon du Made in France ouvre ses portes aujourd'hui à Paris. Emblème de la relocalisation et du retour de l'industrie, reste toujours un problème, Agnès Soubiran, c'est que consommer français, c'est forcément dépenser plus.
Alors oui, c'est une réalité. Le Made in France coûte plus cher, un écart de prix qui varie selon les produits. Pour ce grand groupe spécialisé dans le chauffage, rapatrier en France la production de pièces jusqu'ici fabriquées en Serbie a engendré un surcoût de 10 à 15%, en partie répercuté sur le prix de vente, mais que l'entreprise espère compenser grâce à des investissements dans des machines plus performantes qui éviteront un surcoût de main-d'œuvre, car c'est la raison des prix plus élevés en France, les salaires. Le salaire moyen en France est de 2238 euros, quand il est de 948 euros au Portugal et 260 en Indonésie, écart impossible à rattraper, même avec des coûts de transport qui augmentent.
Du coup, pour inciter les consommateurs, les chantres du Made in France, Agnès, insistent sur la différence entre le prix d'achat et le prix d'usage. De quoi s'agit-il ?
Prenons l'exemple d'un pull. 150 euros en moyenne pour un pull en laine français de qualité contre 20 euros pour un pull venu du bout du monde. Mais si vous gardez le premier 15 ans, son prix d'usage sera de 10 euros par an, comme le pull bon marché qui sera bon à jeter au bout de 2 ans. La qualité, c'est ce qui doit faire la différence pour offrir aux consommateurs un prix d'usage raisonnable. La qualité, mais aussi la traçabilité sur les matières utilisées, la sécurité avec des certifications françaises très strictes et la durabilité avec la possibilité de trouver des pièces détachées et parfois de faire réparer les produits par le fabricant lui-même.
Agnès Soubiran, à la COP26, un accord surprise relance les espoirs à la veille de la fin du sommet. Les États-Unis et la Chine, premiers émetteurs mondiaux de gaz à effet de serre, s'engagent conjointement à faire plus pour lutter contre le réchauffement climatique en relevant leurs ambitions pour la décennie à venir. Et puis réuni en urgence ce jeudi, le Conseil de sécurité de l'ONU se penchera sur la situation à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, où des milliers de migrants se retrouvent coincés dans le froid entre les militaires polonais qui les empêchent de rentrer et l'armée biélorusse qui veut les voir passer en Europe.
Il est 8h14 quand la science convole avec la gastronomie.
On connaissait la cuisine moléculaire, voici tout aussi moderne alors que le principe est connu depuis toujours, la cuisine fermentée. C'est l'une des pistes sur lesquelles travaillent les futurs ingénieurs en biotechnologie culinaire de l'école Subbiotech en région parisienne. Un nouveau cursus comme il en existe de plus en plus dans les filières universitaires. Sophie Becherel a goûté leur création.
Alors je vais vous sortir des planches.
Romain El-Andalousi est ingénieur de recherche en agroalimentaire. Il est aussi formé à la cuisine et à la pâtisserie. Il a bâti le cursus de l'école autour de la fermentation, sa spécialité.
Si vous demandez à un Français s'il mange des produits fermentés, il va vous dire non. Et quand on lui demande s'il mange du yaourt, du fromage, du pain, il va vous dire qu'il en mange tous les jours, mais il ne sait pas que c'est fermenté.
Son but, en mariant science et gastronomie, c'est de former des jeunes ingénieurs à la cuisine du futur. Cette année, il accompagne 9 étudiants dans la préparation du concours Écotrophélia. Ils ont créé un produit apéritif innovant, un tartinable à base de pois chiches fermentés, détail Emma Hockey.
Les légumineuses, c'est très bon parce que ça a plein de protéines, de nutriments et de fibres. La fermentation, ça permet d'améliorer la digestibilité de la légumineuse, mais aussi de ramener des saveurs différentes et nouvelles. On a des petites touches de citron, des petites touches acides qui rajoutent une autre dimension au produit.
Les vertus de la fermentation semblent inépuisables. Les levures, les champignons et bactéries permettent par exemple de se passer d'additifs.
Tous les arômes, qu'ils soient artificiels, même naturels, on arrive à les remplacer avec la fermentation. On arrive à obtenir des choses végétales, mais qui vont avoir un goût de crème. Donc il n'y a plus besoin de mettre d'arôme.
Pour ces futurs ingénieurs, les défis de demain sont grands. Nourrir plus de monde, sainement, en préservant les ressources et avec peu d'énergie, les sciences de la fermentation peuvent les y aider.
Sophie Becherel, on a très envie de goûter, nous aussi. Et si nous pouvions, Nicolas, on aurait aussi aimé passer la soirée à Nevers hier soir. Mais oui, parce qu'à Nevers a lieu chaque année un grand rendez-vous des amoureux du jazz, le festival des Jazz Nevers, annulé comme les autres l'an dernier. Il n'en est que plus vigoureux, Amélie Perrier, d'autant que l'affiche vaut franchement le détour cette année.
L'an dernier, l'annulation du festival avait été aussi brutale que soudaine, d'où la joie immense de son directeur, Roger Fontanel, bien décidé à célébrer ce rendez-vous unique dans le jazz en France.
C'est une très très forte émotion et puis un double enjeu presque d'une certaine façon. Parce que à la fois c'est une édition anniversaire, c'est la 35e édition, et puis c'est une édition qui arrive après une 34e qui a été annulée une semaine avant son démarrage. Donc un grand grand plaisir de retrouver le public, de retrouver les artistes et de retrouver effectivement cette rencontre indispensable entre le public et les artistes.
Et l'affiche est belle, le contrebassiste Avishai Cohen le week-end dernier. Ce soir à la basse aussi, Kyle Eastwood, le fils de son père au cinéma en ce moment. Et justement, dans Cinématic, Kyle revisite des bandes originales aussi mythiques que celles de Bullitt. Côté français, le joyeux duo Vincent Perani et Émile Parisien ont fait swinguer la grande salle. On attend aussi demain le parrain Michel Portal et sa clarinette voyageuse. Sans oublier la grande fête, samedi soir, le pianiste cubain Omar Sosa retrouve le trompettiste Paolo Fresu. Grand soleil annoncé sur Nevers en novembre.
Et on se dépêche d'y aller, Nicolas, parce qu'on a jusqu'à samedi. Voilà.
Samedi,
donc il nous reste quoi, deux soirées.
Deux soirées, exactement. Merci beaucoup, Florence Paracuelos. La météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour femmes. Laine, fil d'Écosse, soie ou cachemire. Belle et naturelle. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Marie-Pierre, de nombreux brouillards au nord de la Loire.
Oui, Nicolas est très dense. Imprudence de Rennes à Alençon, bassin parisien, aux Ardennes jusqu'au Val-de-Saône, à Nevers. En Méditerranée, le temps est toujours instable et de fortes averses orageuses encore possibles ce matin sur l'est de la Corse, mais aussi de la Côte d'Azur aux Pyrénées, et puis du sud-ouest au Massif central jusqu'aux Alpes. Vous passerez votre matinée sous un ciel voilé et près de la Manche, le ciel reste toujours gris avec quelques bruines sous un mercure. Aujourd'hui donc très contrasté entre les gelées au nord est, moins 4 sur les Ardennes et la douceur sous l'humidité, 17 à Toulon. Vous avez 1 à Paris, 4 à Lyon et 6 à Bordeaux.
Et peu d'évolution cet après-midi.
Oui, de nouvelles pluies vont revenir sur l'est de la Corse, alors que sur le pourtour méditerranéen, les averses seront un peu moins soutenues. Ailleurs, après la dissipation de ces brouillards et des nuages bas, le temps sera plus ensoleillé. Et puis le soleil aussi sera de retour de la Bretagne à l'intérieur de la Normandie. En revanche, ça va rester couvert du Havre à la Côte d'Opale et des températures aussi contrastées. 7 à Strasbourg, 10 à Paris, 12 à Lille, 13 à Lyon, 14 à Quimper, 15 à Perpignan, 17 à Bordeaux. Et le maximum, ce sera pour Aix-en-Provence et Ajaccio avec 20 degrés.
Merci Marie-Pierre, à tout à l'heure. France Inter, 8h18, géopolitique, Pierre Asc.